France Culture.
Depuis le 10 avril, la campagne de déclaration des revenus pour 2024 est ouverte. Une campagne qui se termine demain si vous passez par papier ou ce jeudi si vous habitez dans un département alphabétiquement situé entre l'Ain et la Corrèze. Pour les autres départements, les échéances s'étalent jusqu'au jeudi 5 juin. Voilà pour les rappels, mais qui concernent tout le monde ou presque. 41 millions de foyers fiscaux se sont prêtés à l'exercice l'année dernière. À une nuance près, sur ces 41 millions de foyers, 19, soit 45%, se sont effectivement acquittés d'un impôt net positif. Or, parmi ces 45%, une vaste majorité est considérée comme faisant partie de la ou des classes moyennes, puisqu'en 2023, 63% des Français se considéraient comme membres de cette catégorie. Une auto-qualification qui fait l'objet de débats, tant la définition de cette notion de classe moyenne est complexe, voire floue. Il n'en reste pas moins qu'un fait demeure. Cette classe moyenne est l'objet de tous les discours, et c'est en son nom que bien souvent, hommes et femmes politiques parle dès lors qu'il s'agit de débattre fiscalité, car à cette classe moyenne on attribue bien volontiers le monopole du ras-le-bol fiscal légitime. Trop aisée pour percevoir des aides, trop modeste pour bénéficier d'un niveau de vie confortable, elle est prise en étau dans un système auquel elle contribue beaucoup mais dont elle ne bénéficierait pas. Alors d'où vient ce ressentiment fiscal et qu'en est-il vraiment? Comment les économistes ont-ils tenté de comprendre les effets du système fiscal français sur cette population aussi vaste qu'indéfinie? Et surtout, quelles solutions apportent? Faut-il effectivement baisser le niveau d'imposition, concevoir des aides spécifiques ou améliorer l'efficacité d'une sorte de retour sur investissement, c'est-à-dire des services publics? C'est à toutes ces questions que nous allons nous attaquer en direct et jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Grégory Vallon. Et pour en parler et en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Darbois, directrice des études France dans le think tank de l'Institut Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous Pierre Madec, vous êtes économiste à l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE. Vous êtes également le coordinateur avec Muriel Pucci de la dernière revue CNAF pour Caisse nationale d'allocation familiale, intitulée cette année « Nouvelles formes de pauvreté et redistribution ». Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Gabriel Attal, le 9 janvier 2024.
Trop de Français doutent encore. Trop de Français doutent de notre pays, doutent d'eux-mêmes, doutent de notre avenir. Je pense aux particuliers, aux classes moyennes. Cœur battant de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui, parfois, ne s'y retrouvent plus.
Jordan Bardella, le 3 juin 2022.
La vérité, c'est que la classe moyenne devient de moins en moins une classe moyenne et devient de plus en plus une classe populaire. Parce que le problème, c'est que les classes moyennes, aujourd'hui ceux qui travaillent dans notre pays, sont contraints de payer pour tout le monde et eux n'ont jamais d'aide.
Amélie de Montchalin, le 5 avril 2025.
Ce que les parlementaires entendent dans les permanences, qu'on entend tous. C'est une immense anxiété et inquiétude des Français de classe moyenne qui disent « Est-ce que c'est nous qui allons voir la TVA augmenter ? Est-ce que c'est nous qui allons voir l'impôt sur le revenu augmenter ? Est-ce que c'est nous qui allons voir la petite épargne que l'on a être mieux plus taxée ?»
Pierre Madec, avant même de chercher à définir ce qu'est la classe moyenne, une tâche guère aisée, nous allons le voir. Une question se pose, on entendait là des femmes et des hommes politiques parler au nom de la classe moyenne, une catégorie pour laquelle on s'inquiète, au nom de laquelle on exprime aussi une certaine colère, un certain désarroi. Est-ce que c'est là un phénomène politiquement nouveau? En somme, depuis quand les classes moyennes sont au cœur des discours politiques?
Alors, historiquement, c'est compliqué à dire. On reviendra sur la définition dans un deuxième temps. C'est un peu frustrant. On a tous envie de comprendre de quoi les responsables politiques parlent quand ils parlent de classe moyenne. Ce qu'on entend, c'est qu'en gros, ils parlent plutôt de leurs électeurs. Il n'y a pas forcément derrière une considération, on aura l'occasion d'y revenir, économique. Il y a des petits morceaux de définition peut-être dessus sur lesquels on pourra revenir, mais on a l'impression qu'on parle aux classes moyennes en parlant ni aux pauvres ni aux riches, et en disant la grande majorité de la population, c'est à eux qu'on s'adresse, dans potentiellement, on a vu ça vient de tous bords, dans une optique un peu purement politicienne, j'ai envie de dire.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette classe moyenne, elle a été mobilisée effectivement comme catégorie d'analyse, d'interprétation aussi de certains résultats électoraux. Lisa Darbois, lors des dernières élections européennes, on a pu lire que les classes moyennes avaient exprimé leur ressentiment le 9 juin, certains par l'abstention et beaucoup d'autres en votant en faveur du RN, traditionnellement plutôt ancré dans les milieux populaires. C'est la façon dont analysait le phénomène le journal Le Monde. C'est une classe qui politiquement fait l'objet d'une préoccupation certaine. Reste à savoir au nom de quoi, en somme, pourquoi est-ce qu'on se penche précisément sur le ressenti de cette classe-là et sur les moyens de lutter contre les sources de leur colère.
Alors c'est vrai que le phénomène de politisation du concept des classes moyennes, il est relativement récent, en réalité plutôt au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, mais le sujet de cette couche, de cette classe sociale un peu insaisissable qu'on n'arrive pas à identifier, Aristote déjà dans l'Antiquité parlait d'une couche sociale entre une extrême pauvreté et une extrême richesse. Ça a été repris et ça fait partie quand même beaucoup des travaux d'Alexis de Tocqueville début du 19e siècle en disant il y a cette couche intermédiaire sans laquelle une démocratie n'est pas tenable. Et donc ensuite on a eu effectivement plutôt au début du 20e siècle là, des hommes, des femmes politiques, plutôt des hommes d'ailleurs à l'époque, qui ont effectivement repris ce sujet-là en disant mais là on est sur des ouvriers, on est sur des travailleurs. C'est là où les classes moyennes ont été associées à la notion de travail. S'en est suivi après évidemment pendant toutes les Trente Glorieuses un phénomène alors qu'on appelle de moyennisation de la société, nom du sociologue Henri Mandras, parce qu'effectivement on s'apercevait que les écarts de vie, en tout cas les niveaux de vie entre les classes plus populaires, les ouvriers, et puis les classes supérieures, les cadres ou autres, tendaient à diminuer. Et ça, c'était la promesse des Trente Glorieuses. C'était grâce au travail qu'une grande partie des classes populaires pouvait atteindre un certain niveau. Donc on n'était pas très très riches, mais enfin on n'était pas non plus complètement pauvres. Et c'est vrai que on voit bien au fil des dernières années, la classe politique s'est pleinement emparée du concept. Alors ce qui est facile avec les classes moyennes, c'est que ça veut tout dire et rien dire. Donc a priori, on parle plutôt des travailleurs. Voilà, c'est comme ça que la politique, les politiciens en tout cas s'en sont emparés. Vous retrouvez dans le discours de la droite contre l'assistanat, vous retrouvez aussi dans les discours de la gauche sur les catégories populaires, en tout cas les travailleurs qui ne peuvent pas forcément accéder à l'ensemble des, en tout cas des dépenses, en tout cas d'un niveau de vie d'une classe supérieure qu'on a un peu du mal d'ailleurs à désigner et à identifier. Et vous l'avez mentionné, c'est vrai que les on pourra revenir ensuite sur la définition et sur les statistiques, parce que beaucoup de Français s'auto-identifient comme classe moyenne alors que dans les faits non, mais de plus en plus en tout cas de Français effectivement qui statistiquement en tout cas au niveau au moins de leur niveau de vie peuvent être identifiés à des classes moyennes, sont attirés par les partis les plus extrêmes, alors même qu'initialement, et là on reprend de Tocqueville, les classes moyennes initialement sont plutôt les classes les plus républicaines au sens très large, c'est-à-dire sont cette couche intermédiaire qui vise à limiter l'apparition des extrêmes pour préserver la démocratie.
Et là, Lisa Darbois, vous avez évoqué les deux jambes finalement sur lesquelles va marcher cette émission. Il y a la jambe statistique factuelle, la façon dont on peut définir par les chiffres, par les catégories, on va dire statistiques, cette fameuse classe moyenne. Et puis il y a la question très importante du ressenti aussi. Vous l'avez dit avec cet auto-référencement en tant que classe moyenne. Alors basculons dans l'enjeu définitionnel, Lisa Darbois. Et là encore, en lien avec les enjeux politiques aussi, selon l'Institut Opinionway, 41% des ménages gagnant entre 1 000 et 2 000 euros par mois ont voté pour Jordan Bardella et 33% de ceux aux revenus compris entre 2 000 et 3 500 euros. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut définir la classe moyenne sur la simple base des revenus ?
Si on se fie juste sur les revenus, et il y a plusieurs façons d'ailleurs en plus, hein, parce que même sur les revenus, il y a différentes façons de les définir, mais on peut se dire qu'il y a une catégorisation qui est un peu simple, qui est de prendre entre les 30% les plus défavorisés, disons, et les 20% les plus favorisés. Vous avez 50% de la population au milieu, puis vous prenez effectivement le salaire médian. Alors après, il y a beaucoup d'économistes ou de façons de catégoriser les choses, parce que vous pouvez être classe moyenne avec 2500 euros net de revenus par mois, mais ça dépend si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants à charge. Donc c'est vrai que, en gros, du gros, on dit qu'on est classe moyenne entre, pour une personne seule, entre 1500 et 3000 euros. Et puis en fait, si on parle d'une famille très élargie, on peut monter jusqu'à 6-7 000 euros net. Donc là, c'est même pas après l'impôt sur le revenu. Et puis on prend pas ensuite en compte toutes les dépenses et toutes les charges.
Et ce qui est intéressant, Pierre Madec, c'est que l'INSEE refuse de donner la moindre définition de ce que serait, de ce que pourrait être la classe moyenne. Alors l'Observatoire des inégalités tente, lui, de proposer une définition par défaut. C'est un peu ce qu'on disait à l'instant avec Lisa Darbois, dans le sens où il définit effectivement un seuil de richesse, les 20% les plus riches, un seuil de pauvreté, les 30% les plus pauvres, et dit
tout ce qu'il y a au milieu, ça relève de la classe moyenne. Est-ce que ça, c'est une définition satisfaisante de votre point de vue ?
Alors, ça a le mérite d'exister comme définition. Donc, déjà, de ce point de vue-là, ça fait un peu avancer l'histoire. Pourquoi l'INSEE se refuse à le faire ? Parce qu'en fait, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, déjà, en 5 minutes, on a abordé une définition au travers des revenus. On parle de entre 1500 et 3000. Ok, mais c'est quoi la différence quand on est à 2000 euros entre un retraité et un travailleur ? Il n'y en a pas si on prend la définition des revenus. Or, on voit bien dans les discours politiques que ce qui compte, c'est pas où est-ce que vous vous situez en termes de revenus, c'est comment ces revenus sont générés. Vous êtes une classe moyenne au sens politique du terme si, en gros, vous travaillez et que vous n'en avez pas pour votre argent, la fameuse formule sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, mais qui est de dire, en gros, des gens qui payent des impôts et qui ne bénéficient pas de la redistribution au sens élargi. Mais donc là, on est bien au-delà de la simple question des revenus. C'est-à-dire qu'on exclut, de fait, je sais pas, le rentier qui a 2000 euros de rente par mois et qui vit de sa petite rente, ou le retraité. On l'exclut, donc. On n'est pas sur cette définition de « on prend 50% du milieu et puis ça, c'est la classe moyenne ». L'autre problème de cette définition-là, c'est que, comme la pauvreté ou le seuil de richesse, qui là encore, l'INSEE se refuse à fixer un seuil de richesse et l'Observatoire des inégalités tente de le faire, c'est que tout ça, c'est des seuils relatifs. Donc, est-ce que dans une société où il y a moins de pauvres, il y a plus de classe moyenne ? Est-ce que dans une société où il y a moins de riches, il y a plus de classe moyenne ? Peut-être, mais est-ce que être à 2800 euros de revenus ou à 3200, ça change quelque chose ? Comment on prend en compte, en effet, la question du panier de consommation, des dépenses, de la localisation ? On reviendra peut-être sur les questions de logement, mais est-ce que c'est pareil d'avoir 2500 euros de revenus quand on est propriétaire, qu'on a fini de rembourser son emprunt, ou quand on est locataire dans une grande ville et qu'on dépense 30% de son revenu pour se loger ? C'est pas certain, donc... Pourquoi c'est très compliqué de catégoriser cette population-là ? Parce que la problématique, et c'est très lié à la question du ressenti aussi, c'est bien au-delà de la question des revenus. On pourrait en fait essayer de catégoriser ça avec quelque chose qui s'approcherait de ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est-à-dire, en gros, on prend votre revenu, on enlève toutes les dépenses contraintes, tout ce qui vous engage par un abonnement ou votre loyer ou votre remboursement d'emprunt, et puis on classe les Français non pas en fonction de leur revenu, mais de leur reste à vivre. On prend en compte les remboursements de santé, on prend en compte tout ça. Et puis on dit, là, on a les 50% du milieu, on peut les considérer comme étant la classe moyenne, mais on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que simplement les classer par leur niveau de vie, regarder ce qui se passe.
Et c'est la raison pour laquelle Lisa Darbois, il serait... également assez insatisfaisant, on va dire, de tenter une autre définition, peut-être un poil plus sociologique, on va dire, en tentant de prendre en compte les professions et catégories socio-professionnelles, qui est une catégorie créée en 1950 par l'INSEE. Là aussi, ça coince, parce que là aussi, on exclut les retraités et ça ne fonctionne pas.
Là, ça coince, c'est aussi une des statistiques, enfin, ça c'est aussi retenu par l'INSEE, ça a plusieurs intérêts, ça existe depuis très longtemps, ça permet des comparaisons historiques, c'est quand même assez stable dans le temps, mais on l'a évoqué à l'instant très justement, vous excluez les retraités, vous excluez les chômeurs. Et donc leur passé, vous excluez la capacité patrimoniale des gens. C'est vrai que c'est pas la même chose de toucher 2500 euros quand vous n'avez pas de crédit sur le dos que quand vous en avez un, que quand vous êtes locataire. Et puis aujourd'hui, on voit bien quand même, alors sans rentrer spécifiquement dans le monde du travail et de l'emploi, mais les professions catégories socio-professionnelles, elles ont plus la même réalité aujourd'hui. On peut prendre plein d'exemples. Il y a de moins en moins de CDI, il y a de plus en plus de contrats plus courts. On a aussi une augmentation des auto-entrepreneurs et des indépendants. Comment est-ce qu'on peut concrètement les mettre dans une case ? Ils n'ont pas le même quotidien, c'est pas le même revenu, c'est pas les mêmes choix. Donc tout ça est très difficilement appréciable. Je prends un exemple qui est anecdotique et marginal dans les statistiques, mais qui veut bien expliquer. On a vu ces derniers temps, on voyait pas mal de profils, parfois de jeunes diplômés, de très bien diplômés, qu'on a appelé un temps les bifurqueurs. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini mes études, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et puis je vais repasser un CEP où je me mets dans la boulangerie, je reviens sur de l'artisanat. Mais peut-être que vous allez, d'un point de vue de profession, catégorie socio-professionnelle, vous retrouver dans une certaine catégorie. En réalité, ça veut rien dire de votre patrimoine familial, financier et de même de votre patrimoine éducatif. Et donc c'est là où on a quand même les limites de cette appréciation, même si encore une fois, on prend tous les outils qu'on a à notre disposition pour tenter d'y voir un peu plus clair, que ce soit sur les niveaux de revenus ou sur les professions et catégories socio-professionnelles.
En prenant ce prisme-là des catégories socio-professionnelles, c'est ce qu'avait fait Thierry Page, directeur du think tank Terra Nova, qui avait consacré en 2011, si je ne me trompe pas, un très long article sur l'histoire de cette notion des classes moyennes. Il disait qu'en prenant cette catégorie-là, on pouvait distinguer deux classes moyennes. Et là, on arrive à une difficulté supplémentaire, celle de mettre la classe moyenne au pluriel. Lui en distingue donc deux, les classes moyennes indépendantes, les non-salariés, qui s'appuient souvent sur la détention d'un capital économique propre, et les classes moyennes salariées, qui peuvent surtout faire valoir leur capital de formation. Pierre Madec, vous êtes d'accord, il faut parler à minima des classes moyennes au pluriel.
Oui, à minima, mais le problème, c'est que du coup, quand le responsable politique s'adresse à la classe moyenne, on ne sait pas à quelle classe moyenne celui-ci s'adresse. En fait, on a l'impression qu'on parle de la classe moyenne pour ne pas opposer les gens. On dit, bon, en gros, il y a les pauvres, qu'on va traiter avec un certain nombre de prestations sociales, mais qui ne sont pas un enjeu politique. Le taux de pauvreté peut être un enjeu politique, les ménages pauvres ne sont pas un enjeu politique. Il y a les riches, qu'on va traiter au travers de la fiscalité, mais on n'en parle pas non plus politiquement, on en parle pour dire on va réduire les inégalités, il y a peut-être des marges de manœuvre budgétaires à chercher du côté des riches. Puis il y a les autres. Et les autres, c'est la classe moyenne. Le problème, c'est comme il y a plusieurs classes moyennes et qu'on n'a pas envie d'opposer les retraités aux actifs, les salariés aux indépendants, on ne va pas s'adresser à la micro-niche des salariés qui travaillent dans les grandes villes et qui, pour je ne sais quelle raison, deviendraient un enjeu politique. Donc on s'adresse à la classe moyenne. Mais on voit bien qu'il y a une hétérogénéité territoriale qui est très importante. En fonction de là où vous habitez, votre reste à vivre, votre reste à charge n'est pas le même. Et votre perception des services publics reçus, le fameux « en avoir pour son argent », n'est pas du tout la même, on aura l'occasion d'y revenir, en fonction de salarié indépendant, retraité ou salarié ou indépendant, quel est votre patrimoine financier, votre patrimoine immobilier, quelle est la nature de votre revenu, est-ce que c'est principalement des revenus du travail ou alors des revenus justement du patrimoine ou alors des allocations chômage, enfin voilà, il y a une multitude de situations qui font que il y a une espèce de facilité politique à s'adresser à la classe moyenne, comme ça tout le monde se sent concerné en disant moi aussi j'aimerais bien en avoir pour mon argent, mais derrière c'est extrêmement compliqué de cibler, on y reviendra peut-être plus tard quand on discutera des solutions pour lutter contre ce sentiment de déclassement de la classe moyenne, c'est compliqué de cibler une politique publique sur une population qu'on a du mal à identifier.
Et là Pierre Madec, on a une deuxième fil rouge aussi, vous citiez cette idée d'en avoir pour son argent comme plus petit dénominateur commun peut-être de cette classe moyenne, mais on pourrait en citer un deuxième qui transparaît dans vos réponses à tous les deux, qui est celle de la peur du déclassement. En fait, c'est une forme de sentiment d'insécurité sur lequel politiquement on peut jouer, on le comprend de fait la mobilisation dans les discours. Je trouve que cette idée de savoir d'où viendra le filet de sécurité, si c'est de la part des services publics ou si c'est au contraire en se débrouillant soi, en comptant sur soi-même, il est extrêmement structurant aussi dans cette classe moyenne. C'est pour ça, Lisa Darbois, que je voudrais insister sur le côté patrimonial aussi, que je trouve intéressant. On a beaucoup parlé du revenu. Je cite Thomas Piketty, que vous citez vous-même dans votre rapport, qui définit la classe moyenne patrimoniale comme un large groupe social ne possédant pas énormément individuellement. Avec 150 000 euros de patrimoine, on est plus pauvres sans être vraiment riches, mais assez nombreux pour posséder collectivement un tiers du patrimoine national et qui constitue sans nul doute un développement historique majeur aux conséquences sociales et politiques considérables. Or, la part des ménages propriétaires a beaucoup augmenté ces dernières décennies, notamment entre 1973, de 45% et de 1988, où ça passe à 54%. Aujourd'hui, Lisa Darbois, est-ce que cette classe moyenne est toujours propriétaire ou est-ce qu'il faut, et là je trouve que c'est une deuxième nuance intéressante, est-ce qu'il faut mettre aussi une ligne de fracture entre une classe moyenne jeune et une classe moyenne âgée qui aurait pu bénéficier justement de cet accès à la propriété?
Alors, vous évoquiez juste avant effectivement la bipolarisation de la classe moyenne. Alors, c'est quelque chose sur lequel on revient beaucoup. C'est surtout Jérôme Fourquet, avec notamment ses travaux, qui est revenu. On aurait, alors, désolé pour le mot qui n'est pas très joli, mais on aurait classe moyenne inférieure, donc c'est-à-dire effectivement à la limite de ces 30% les plus défavorisés, et puis une classe moyenne supérieure qui a un petit peu plus de marge de manœuvre. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est très subjectif en fait, c'est lié avec votre sentiment de déclassement. Dans les faits, et moi je rejoins tout à fait. Ce qui a été dit, il faut regarder le reste à charge, il faut regarder les dépenses contraintes, il faut objectiver. Mais les classes moyennes, elles sont pas forcément sur des attentes objectives. Quand on est classe moyenne, on n'a pas forcément juste envie de payer ses factures et de se permettre de... Il y a toujours cette envie d'avoir quelque chose de la classe, en tout cas jugée, visée, juste au-dessus. C'est une consommation un petit peu plus ostentatoire, c'est parfois rien que dans, et ça Jérôme Fourquet en parle beaucoup sur les biens de première nécessité, sur l'alimentation, c'est rien que de pouvoir s'offrir le choix de ne pas avoir à choisir entre un hard discounter de grande consommation ou alors de se dire, bah non, moi je vais pas forcément compter pour acheter mes légumes. Voilà. Et donc, on a effectivement, et c'est là-dessus d'ailleurs que l'offre politique, notamment d'extrême droite, en tout cas émerge, c'est de se dire, bah, il y a cette classe moyenne un peu inférieure, c'est-à-dire qui est à la limite, qui a envie de se maintenir socialement, mais qui pourrait basculer. Et effectivement, dans cette partie-là, en tout cas de la population-là, la capacité d'être propriétaire, en tout cas le besoin de le devenir, est très 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 important. On a beaucoup dit, est-ce que les Français sont toujours attachés ou pas à la notion de propriété ? La réponse, elle est oui. Les jeunes générations, y compris, aspirent toujours autant à devenir propriétaires. D'ailleurs, toujours dans des configurations assez classiques, assez 30 glorieuses, qui sont le pavillon, la maison, ce qui pose après évidemment beaucoup d'enjeux, notamment en raison de l'offre de logement et des enjeux d'environnement et beaucoup d'autres enjeux. Mais il y a une véritable appétence. Et pourquoi ? C'est pas uniquement pour être propriétaire. C'est la première des raisons, c'est pour se mettre en sécurité. Et c'est vrai que la propriété est vécue comme une capacité déjà de se constituer une épargne, parce qu'on voit bien, les prix augmentent, il y a moins de capacité à. Donc au moins, je rembourse, je mets pas mon argent par la fenêtre, je rembourse mon emprunt, je serai propriétaire, je mets mes enfants aussi à l'abri, parce qu'ils ont un toit. Et ça, c'est très très important, et c'est vrai que c'est là où il peut y avoir une différence notamment notable avec les autres générations. On voit avec les retraités et tous les enjeux autour de la réforme des retraites, c'est qu'effectivement, on a une génération qui a eu un pouvoir d'achat immobilier beaucoup beaucoup plus important, et qui a eu l'effet d'aubaine d'une augmentation du foncier. Donc c'est-à-dire qu'un patrimoine qui a augmenté de manière considérable, avec, ça c'est aussi toutes les travaux d'Antoine Fouché, etc., avec une rémunération du travail très élevée, etc. Donc on a, au total, c'est vrai, une fracture intergénérationnelle assez forte sur certains indicateurs classiques, qui sont les salaires, le pouvoir d'achat immobilier, la capacité à. Et là, on voit bien, effectivement, une fracture de plus en plus notable se créer.
Pierre Madec, si on s'interroge effectivement sur les raisons de la peur du déclin au sein de la classe moyenne, quelle place joue cette question de l'accès à la propriété ?
Juste un mot sur le fameux classement, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure. Bon,
voire classe moyenne intermédiaire.
Voire classe moyenne intermédiaire. Alors l'INSEE se refuse à mesurer les classes moyennes en tant que telles. Par contre, l'INSEE prend en compte ces catégories de revenus en disant, en gros, il y a les ménages pauvres, qui sont statistiquement sous le seuil de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle les ménages modestes. Les ménages modestes, c'est ceux qui sont pas pauvres, mais qui ont, uniquement sous l'angle niveau de vie, qui peuvent avoir des difficultés particulières. Voilà. Il y a les ménages moyens, qui pourraient s'approcher des classes moyennes, mais qui ne sont pas des classes moyennes, parce que en fait, les ménages moyens, selon l'INSEE, c'est 27% de la population. Un peu moins d'un tiers, de mémoire. Donc on voit bien que déjà, on est sur une population qui est beaucoup plus restreinte. Et là, c'est tout compris, c'est salariés, indépendants, retraités. Donc au sein de cette population-là, on voit que la classe moyenne politique, au sens politique qu'on entendait tout à l'heure, est en fait marginale, si on en croit les statistiques. Puis au-dessus des ménages moyens, le fameux français moyen, on aurait les classes aisées, et puis les classes très aisées. Donc c'est une forme comme ça de classement au travers de cinq groupes qui font pas la même taille. Mais du coup, on aurait une définition des classes moyennes qui est au final assez restreinte. C'était juste pour faire une parenthèse sur ce que fait l'INSEE, la statistique publique en termes de classement des ménages, parce que l'INSEE fait quand même beaucoup de choses. Sur la question du déclassement, je pense que, alors c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est un sujet qui moi me tient à cœur, la question du logement est évidemment centrale. À la fois en termes d'inégalité intergénérationnelle, on en a parlé entre les plus âgés et les autres. Rappelez que si on prend cette question du logement, il y a quand même 40%, vous citiez Thomas Piketty tout à l'heure, mais il y a 40% des ménages français qui n'ont pas de patrimoine. Ou un tout petit patrimoine financier, mais on est très très loin des 150 000 euros, parce qu'ils sont pas propriétaires de leur logement, et donc ils ont un patrimoine net qui est extrêmement faible. Donc si on dit la classe moyenne, c'est ceux qui ont un tout petit peu de patrimoine, qui sont propriétaires de leur logement, ou je ne sais quoi, on exclut de fait déjà 40% de la population qui, elle, n'a pas de patrimoine, ou qui n'est pas dotée en patrimoine. À l'inverse, on pourrait dire, en fait, la classe moyenne, c'est celle qui n'a pas de patrimoine. Mais du coup, on va à l'intérieur des 40%. Et à l'intérieur des 40%, il y a beaucoup de ménages qu'on classerait plutôt comme pauvres ou modestes que comme ménages de la classe moyenne. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais la question du logement dans ce sentiment de déclassement, elle est centrale. C'est-à-dire que il y a eu des dynamiques de prix qui ont certes bénéficié à tout un tas de ménages, mais qui ont exclu disiez, la part des propriétaires a beaucoup augmenté, en effet, depuis 50 ans. C'est vrai. Par contre, depuis 10 ans, elle a assez peu augmenté. Depuis 15 ans, elle a assez peu augmenté. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de transactions immobilières, on a eu des conditions de crédit plus favorables que jamais, mais en fait, c'est plutôt des gens qui étaient déjà propriétaires qui se sont échangés des logements entre eux. C'est plutôt des ménages aisés qui sont devenus propriétaires parce que, en effet, le crédit était tellement peu cher qu'il fallait mieux être propriétaire que locataire. Et du coup, au centre de la distribution des niveaux de vie, on voit qu'en fait, il y a à peu près autant de propriétaires aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler classe moyenne que ce qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Ceux qui étaient propriétaires ont bénéficié de l'envolée des prix. Ceux qui ne l'étaient pas ont subi l'envolée des prix, n'ont pas bénéficié de l'assouplissement des conditions de crédit. Et du coup, on a créé cette espèce de classe moyenne à deux vitesses, avec en effet des gens propriétaires qui, en gros, épargnaient chaque mois pour rembourser du capital avec des taux d'intérêt qui ne cessaient de baisser. Et puis, de l'autre côté, des gens qui, eux, ont continué à payer des loyers, souvent à des ménages plus aisés qu'eux. Et ça peut participer à ce sentiment de déclassement. Le deuxième sentiment de déclassement avec le prisme logement, c'est la métropolisation. C'est-à-dire que on a concentré typiquement... Enfin, il y a très cet aspect-là dans le déclassement, quand on lit un peu les études sociologiques. C'est pas tant le déclassement pour soi-même que le déclassement, par exemple, pour ses enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous vivez ce qu'on appelle la province, qui n'est pas un joli terme, mais qui, pour le coup, là, j'accuse l'INSEE d'appeler ça la province. En gros, vous habitez en dehors, potentiellement, des grandes métropoles. Vos enfants, pour poursuivre leurs études, ils vont avoir besoin d'accéder au logement dans les grandes métropoles. Et le plus souvent, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à le faire aujourd'hui qu'il y a 20 ou 25 ans. Et donc, ça participe aussi au sentiment de déclassement, de se dire, mais moi, je pouvais faire des choses. La génération suivante, du fait de la cherté du prix du logement, est en incapacité de faire ça, est en incapacité de doit loger beaucoup plus loin de son emploi, etc., etc. Donc, ça participe aussi, et c'est très lié à la cherté, à la rareté du logement, au-delà de la dimension patrimoniale.
Et Lisa Darbois, pour qu'on soit bien fixé sur cette notion de déclassement aussi, est-ce que c'est un déclassement qui se caractérise par la peur de basculer vers le bas, ou est-ce que c'est un déclassement qui, plutôt, à l'inverse, se heurte à l'impossibilité d'aller vers le haut? Vous citiez il y a quelques instants Henri Mandras, en 1988, qui défendait l'idée donc d'une moyennisation de la société française, qui avait pour caractéristique la diminution des écarts de revenus entre les cadres et les ouvriers ou employés. Est-ce que c'est ça aussi qui aujourd'hui est grippé, aujourd'hui, qui explique l'idée d'un déclassement, mais qui serait plutôt dans l'idée d'un ascenseur social qui ne fonctionne plus, en fait?
Oui, c'est un peu les deux, en fait. Ce qui prédomine quand même, c'est « je n'ai pas le même niveau de vie » que mes parents. En tout cas, je ne peux pas forcément y aspirer. C'est d'ailleurs une croyance. Je dis une croyance parce que les statistiques publiques montrent que ce n'est pas vrai. Il y a en réalité, si on parle d'ascension sociale, et ça, les chiffres, ils sont du côté de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on regarde, alors encore une fois, malheureusement, c'est uniquement sur les catégories socio-professionnelles. Donc on regarde effectivement si les enfants d'ouvriers ont plus de probabilités que d'autres de devenir eux-mêmes ouvriers, ou si les cadres, etc. Ce qui est réel, c'est que dans la statistique publique, on a moins de 5% de cas, en réalité, de réel déclassement. C'est-à-dire, effectivement, j'ai pas le même niveau, en tout cas statutaire, socialement, que mes parents. Mais de ces 5%, on ne sait pas d'ailleurs ce qui relève potentiellement d'un choix. Ce qui est ou pas le fait, effectivement, de défaillance, je dirais, de l'État, de l'école, etc. Donc, c'est une vraie croyance qui n'est pas corroborée, quand même, par les chiffres. Pour autant, elle existe. Les classes moyennes ont peur non seulement de ne pas avoir le niveau de vie des générations d'avant, mais de ne pas pouvoir offrir le même niveau de vie à leurs enfants. Et cette peur du déclassement, elle est très importante, elle se voit dans l'école, elle se voit d'ailleurs dans les stratagèmes. Alors moi, dans le rapport, je montre un peu les stratagèmes, parce que c'est une croyance, du coup, et ça explique beaucoup des dynamiques positives sur l'école privée. L'école privée, toutes les statistiques d'ailleurs le montrent, les professeurs sont pas de meilleure qualité que dans l'enseignement public. Il y a rien d'autre. Par contre, effectivement, on voit de plus en plus, ce n'est plus forcément les classes très aisées ou aisées qui envoient leurs enfants dans les écoles privées. C'est aussi maintenant, alors, si je reprends la catégorisation effectivement de lycée, ça sera plutôt les ménages médians et pas forcément les plus modestes. Mais en tout cas, ce sera une classe moyenne qui va parfois même faire des sacrifices ou consentir à diminuer son budget sur certains autres éléments pour s'assurer d'envoyer ses enfants dans une école, encore une fois, qu'il juge potentiellement plus performantes ou plus à même de sécuriser leurs enfants sur leur avenir. Et donc, ça augmente, ça fait partie. Alors, il y a différentes façons de le voir, hein. Moi, je pourrais être très provocatrice et dire que bah, pour certains ménages, les dépenses en école privée sont des dépenses contraintes. Ça ne l'est pas en tant que tel, parce qu'effectivement, ce n'est pas du logement, c'est pas de l'énergie. Mais c'est quand même vécu comme ça. C'est-à-dire, c'est dit, mais moi, je crois à l'école, mais enfin, elle est défaillante. L'école ne joue plus son rôle d'ascension sociale. Et donc, il faut que, bah, par mes propres moyens, soit j'augmente les cours particuliers. D'ailleurs, les cours particuliers, le marché des cours particuliers dans notre pays est le premier de l'Union européenne, hein. Donc, on est sur un marché florissant. Et les écoles privées qui ont de plus en plus d'élèves qui ne viennent pas forcément des classes les plus aisées. Donc, ça démontre bien qu'il y a une peur que ces enfants n'aient pas le même niveau de vie qu'avant. Et vous citiez Mandras, c'est tout à fait vrai. Le différentiel maintenant, et ça on en reparlera sans doute quand on parlera de redistribution notamment élargie selon l'INSEE, c'est vrai que les écarts après transfert aujourd'hui monétaire sont moins favorables, ou en tout cas continuent à stabiliser une classe moyenne qui ne sort plus du lot par rapport aux classes un peu plus défavorisés.
Et on en vient là à l'idée de vouloir sécuriser, en tout cas d'avoir cette peur pour l'avenir et de sécuriser, mais avec ses propres moyens, en fait, de se construire son propre filet de sécurité. Mmh. Et on voit là aussi l'idée d'une défiance, en tout cas d'un manque de confiance aussi dans les services publics proposés. Et c'est également ce dont parle Valentin, c'est un témoignage qui a été récolté et diffusé le 23 mai 2023.
Ici, vous êtes dans ma cuisine, donc dans cet appartement que j'occupe depuis septembre 2019. C'est un appartement de 33 mètres carrés. Je pense vraiment assez souvent au prix que je paie chaque mois. Et il y a même des soirs où je me demande combien je paye la nuit. C'est 55 euros, j'avais calculé la nuit. Donc c'est certes, c'est pas un 4 étoiles, hein, mais c'est un peu comme si je me disais que je payais le prix d'une chambre d'hôtel, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai droit à aucune aide de l'État, aucune APL. Les aides pour le logement, aucune aide énergie, aucun chèque bois, parce que je rentre dans cette frange de la population qui gagne trop bien pour être aidée, mais pas assez pour vivre bien quand même.
Gagner trop bien pour être aidée, pas assez pour vivre bien quand même, c'est sur ce vivre bien que je voudrais insister maintenant. Pierre Madec, on a commencé à parler de la notion de dépense contrainte, mais effectivement elle est intéressante, on a vu la dimension, enfin, la définition économique à travers le revenu, le patrimoine, et celle plus sociologique aussi de la dépense. En fait, c'est un fait majeur aussi pour comprendre les inquiétudes de la classe moyenne ou des classes moyennes. C'est cette idée d'avoir un certain nombre de dépenses qu'ils ne peuvent même plus choisir, où il y a vraiment cette idée de contrainte. Et or, ces dépenses-là, elles ont largement augmenté, je crois, de 4 points depuis 2001, si mes souvenirs sont exacts. Comment on explique cette part-là de dépenses contraintes qui augmente à ce point?
Le gros revient au post-logement, c'est-à-dire que on a eu des baisses de prix, hein, sur des dépenses contraintes. On peut penser à Internet, à la téléphonie mobile, à tout ça où en fait ça a plutôt baissé. Les prix de l'énergie ont pas mal augmenté, mais c'est assez fluctuant. Le gros, c'est la partie logement. Et votre reportage l'illustre bien. Et on en revient à ce sentiment de déclassement qui proviendrait plus du coup d'une insuffisance de reste à vivre, le reste à vivre étant défini comme le revenu moins les dépenses contraintes, une insuffisance de reste à vivre qu'une insuffisance de revenu. On vivait mieux à une époque avec le même niveau de vie, parce que notamment le post-logement était beaucoup moins élevé. Après, il y a ce débat sur trop riche pour, occasion là encore d'y revenir, mais trop riche pour bénéficier des aides, mais trop pauvre pour vivre bien. Faut rappeler, ça a été mentionné tout à l'heure, tout le discours politique, là encore, qui vise à s'attaquer à l'assistanat, à la place trop importante des aides sociales en France. Le monsieur qui intervenait parlait des APL. Bon, à côté de ça, il y a un discours sur les APL qui est de dire il y a trop de gens qui bénéficient des APL. Les APL, bon, on voit bien que la personne en question, elle, pourrait en bénéficier ou aimerait en bénéficier et n'en bénéficie pas. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme de contradiction dans le discours même des gens qui se considéraient comme classe moyenne, à dire d'un côté il y a trop d'aide et puis de l'autre côté il n'y en a pas assez pour moi, quoi. Donc peut-être que du coup c'est sur l'aspect fiscal qu'il faut jouer, c'est là-dessus on y reviendra que le responsable politique essaye de jouer, mais il faut peut-être souligner aussi cette forme d'opposition dans le discours sur les aides sociales.
Et c'est peut-être la dernière définition qu'il nous manquait, cette définition fiscale, mais donc aussi très, très politique quelque part. Et là, je voudrais juste faire un petit retour historique. Lisa Darbois, en 1908, l'association de défense des classes moyennes, elle était déjà là, voit le jour. Son but avoué est de jeter les bases d'un syndicalisme bourgeois. L'année précédente, en 1907, avait été créée l'association d'études fiscales et sociales en réaction au projet d'impôt sur le revenu déposé par Joseph Caillaux, qui était alors ministre des Finances. Est-ce qu'on peut dire que aussi, ce qui constitue une forme de conscience de classe au sein de la classe moyenne, c'est ce rejet de l'impôt, en tout cas ce sentiment de payer constamment trop d'impôts.
Alors je pense que le rejet de l'impôt, il est français, avant d'être classe moyenne, c'est une singularité de notre pays, depuis très longtemps. Pour revenir très rapidement sur ce qui a été dit, et c'est vrai, c'est un des paradoxes, hein, c'est de se dire, mais finalement, moi j'ai le droit à rien, les autres y ont droit, mais les classes moyennes, en fait, elles aspirent, et on y reviendra sans doute dans l'émission, surtout à gagner de l'argent par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles aspirent surtout à ce que le travail soit plus rémunérateur. Elles aspirent pas à être davantage bénéficiaires d'aide sociale. Elles le vivent comme une injustice parce qu'elles ont effectivement le sentiment qu'à travers la fiscalité, elles contribuent beaucoup pour les services publics et pour d'autres personnes qui ont des aides sans elles-mêmes en bénéficier. Mais c'est pas non plus ça à quoi elles aspirent. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que vu l'état de nos finances publiques, personne ne peut aspirer au fait qu'elles-mêmes touchent davantage d'aide. On pourrait pas les financer. Sur la fiscalité, ce qui est assez clair, elle paye des impôts comme tout le monde, elle paye de la fiscalité indirecte, de la TVA via de la consommation, elle paye évidemment des charges, des cotisations, mais c'est vrai que sur l'impôt sur le revenu, vu que nous sommes en pleine campagne, c'est vraiment là où elles peuvent voir, d'ailleurs maintenant tous les mois avec le prélèvement à la source, hein, de manière beaucoup plus claire, l'écart qu'il y a entre déjà le salaire brut... Ensuite, moi, ce que je vais appeler le net, et puis le net-net, quoi. Enfin, je veux dire, une fois que le prélèvement à la source est passé, et là, vous vous dites, ah oui, finalement, il m'en reste pas tant que ça. Alors, sur quelques chiffres, on a moins d'un foyer fiscal sur deux qui paye de l'impôt sur le revenu. En moyenne, pour ceux qui en payent, ils payent à peu près 4 600 euros, il me semble, par an. Et majoritairement, parce que c'est un impôt progressif, parce qu'il y a des tranches, effectivement, ce sont les classes intermédiaires, médianes, pour lesquelles l'impôt sur le revenu va être majoritaire en termes d'impact, en termes de poids. Donc, c'est vrai que ça peut... et puis, c'est un impôt que vous voyez. Enfin, c'est-à-dire que la TVA, on la voit plus, on la voit pas. Enfin, beaucoup la voient, mais je veux dire, on sait bien qu'il y a une propension à consommer qui est plus importante en fonction des revenus un peu plus bas, et donc, elle pèse proportionnellement plus sur des ménages un peu moins dotés. Mais dans les faits, vous l'oubliez. Votre fiche de paye, bon, bah, certes, vous voyez de brut au net, mais enfin, ce qui fait mal, entre guillemets, à ce moment-là de l'année, c'est votre impôt sur le revenu. Et là, c'est vrai que il y a beaucoup de foyers fiscaux qui déclarent mais qui ne sont pas imposés, certains même qui ne sont pas imposés et qui bénéficient de crédits d'impôt. Donc, il y en a même qui chaque année... Alors, c'est pas énorme, hein, c'est marginal. Mais donc, c'est vrai que ça rejoint en fait tout le discours de « nous, on contribue beaucoup ». Je pense que l'impôt sur le revenu est assez emblématique de ce sentiment de contribuer beaucoup et de ne recevoir que peu.
Il y a l'impôt sur le revenu, mais vous l'avez mentionné vous-même, il y a tout un tas d'autres charges, et notamment la TVA. Pierre Madec, il y a une étude de l'INSEE qui est apparue il y a quelques temps, il y a quelques mois, selon laquelle le taux de prélèvement global des plus fragiles s'élevait à 39%, ce qui était très proche des classes moyennes. Est-ce qu'il faut nuancer là, effectivement, sur ce qu'est le contribuable de classe moyenne, et est-ce qu'il est si éloigné que cela du contribuable qui ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu?
Alors, peut-être un petit retour sur la partie aide sociale. Je suis assez d'accord pour dire que si on croit la définition politique des classes moyennes, du travailleur qui trouve qu'il a du mal à s'en sortir à la fin du mois, en effet, il demande juste à gagner plus du fait de son travail, soit en payant moins d'impôts, soit en gagnant plus. La réponse politique... Le problème est bien identifié, la réponse politique ne l'est pas toujours très bien. C'est-à-dire que si on revient au moment de la crise des Gilets jaunes, et ça me permettra de faire le lien avec la partie impôt sur le revenu et ce qui est devenu l'impôt sur le revenu en France aujourd'hui, mais au moment de la crise des Gilets jaunes, le président de la République a annoncé une grande augmentation du SMIC de 100 euros, par exemple. La réponse n'a pas été d'augmenter le SMIC de 100 euros. Ça a été de dire, non, on va pas augmenter le SMIC de 100 euros parce que sinon ça va avoir des réactions en chaîne sur l'ensemble des salaires et donc ça va coûter trop cher aux entreprises. Que peut-être que c'était une réponse au pouvoir d'achat des classes moyennes ou au problème de pouvoir d'achat des classes moyennes. Non, ce qui a été fait, c'était d'augmenter la prime d'activité. La prime d'activité, c'est pas du salaire. La prime d'activité, c'est une aide sociale à destination des classes moyennes potentiellement inférieures, mais à destination des classes moyennes quand même. Donc on identifie bien le problème. La solution politique, souvent, se traduit un peu autrement. Sur l'impôt sur le revenu, là encore, en effet, c'est une croyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il est extrêmement concentré chez les 3% de ménages fiscaux les plus riches. C'est eux qui payent la majorité de l'impôt sur le revenu. Il faut être dans les tranches très élevées pour avoir un taux moyen. Si on prend juste l'impôt sur le revenu, on met de côté la CSG notamment, mais si on prend juste l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui rapporte relativement peu quand on le compare à la CSG ou à la TVA, par exemple, qui sont payés par tout le monde. Et c'est un impôt qu'on a très largement détricoté. François Hollande a supprimé la première tranche quand il était président de la République. Emmanuel Macron, encore suite à la crise des Gilets jaunes, a baissé de 5 milliards les recettes d'impôt sur le revenu. Il faudra demander aux ménages français s'ils s'en sont aperçus. Mais le fait est que la mesure a bien eu lieu et elle a eu un coût budgétaire. Et on a tendance, en jouant sur la décote, en jouant sur tout un tas de paramètres fiscaux, à essayer, quand on veut redonner soi-disant du pouvoir d'achat aux ménages, de jouer sur l'impôt sur le revenu. Or, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui, c'est le seul impôt progressif qu'on ait en France. Et donc, on a transformé l'impôt sur le revenu en quelque chose de très discriminant, en effet. Ah ben, moi, je paye l'impôt sur le revenu, toi, tu ne le payes pas, donc, je contribue plus que toi. Alors que si ça se trouve, pas du tout. C'est-à-dire que, ça se trouve, la personne qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, bah, va payer plus de TVA, va payer plus de CSG, va payer de la fiscalité sur les revenus du capital qui, aujourd'hui, ne sont plus à l'impôt sur le revenu. Bon, pour tout un tas de raisons, c'est faux. Mais on a l'impression qu'à partir du moment où on paye l'impôt sur le revenu, on paye plus d'impôts que son voisin qui, lui, ne paierait pas. Alors que l'impôt sur le revenu, en termes de recettes fiscales, c'est relativement peu. Dans les solutions, on aura l'occasion d'y revenir, mais essayer de réparer ce qu'on a cassé en remettant de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. Si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, il y aurait plus ce débat de qui paye quoi. C'est-à-dire, c'est pas une question d'augmenter les impôts, c'est juste là aujourd'hui, on a un système qui est très largement, notamment à cause de la TVA, mais pas que. Il y a aussi la taxe foncière, la fiscalité locale, tout ça. On a un système qui est très peu progressif, voire anti-redistributif, avec des classes moyennes qui contribuent plus au final en termes de taux de prélèvement obligatoire que les ménages, les 5 ou 1% de ménages les plus aisés. Ramener de la progressivité dans le système d'imposition français, ça peut aussi recréer une forme d'acceptation à l'impôt qui aujourd'hui, en effet, a très largement disparu, mais cette disparition est peut-être imputable aussi au fait qu'un certain nombre de mesures politiques sont venues détricoter l'impôt, enfin l'outil qui était l'impôt sur le revenu.
Oui, parce que vous avez parlé, Pierre Madec, de cette idée de classer les gens en fonction de tu payes l'impôt, moi je paye l'impôt, toi tu ne le payes pas, ce qui est plutôt regarder vers le bas. Mais Lisa Darbois, on pourrait se dire aussi que ce sentiment-là d'injustice fiscale, il vient aussi en regardant vers le haut pour ces classes moyennes. Et les tendances sont là. En 2024, selon une note de Bercy, l'impôt sur le revenu a augmenté pour tous ceux qui le payent à un rythme compris entre 3 et 10% en moyenne selon les déciles, et celui des 10% les plus aisés a reculé, lui, de 0,1%. Alors ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà reculé quand le reste augmente. Est-ce que le sentiment d'injustice fiscale, il vient aussi de là? Il vient aussi de l'idée d'observer des politiques fiscales beaucoup plus arrangeantes pour les déciles qui sont tout en haut par rapport à la classe moyenne?
Alors je dirais, et ça se reconfigure, mais traditionnellement, encore une fois traditionnellement, enfin, dans ce qu'on pouvait identifier de les classes moyennes à l'époque, on avait, si on parle de cette couche intermédiaire à la Tocqueville, on avait, si on regarde les statistiques, classiquement, je dirais, une classe moyenne assez binaire, c'est-à-dire bien équilibrée dans l'échiquier politique, avec une surreprésentation des électorats de droite, je dirais, républicaine, dans les salariés du privé. Une surreprésentation légère de l'électorat de la gauche républicaine dans la fonction publique. Et on avait donc, avec deux corollaires d'idéologies assez évidentes, en tout cas classiques, qui seraient de dire, bon bah, pour plutôt la gauche classe moyenne, effectivement, il y a un enjeu d'injustice fiscale, c'est parce que peut-être que les plus aisés ne payent pas assez. Et puis le corollaire un peu de droite, c'est, bah oui, il y a de l'injustice fiscale, parce que je verse trop, et c'est trop donné aux aides sociales de personnes qui en bénéficient. Donc, aujourd'hui, on voit bien que l'échiquier politique s'est bipolarisé. Vous l'avez mentionné en début d'émission, on a une classe moyenne qui vote de plus en plus pour les extrêmes. Il y en a beaucoup, quand même, qui ont rejoint, je dirais, l'électorat, le Rassemblement National, avec plutôt cette idée de oui, en fait, le problème, c'est qu'on paye beaucoup. Alors attention, on rajoute une équation, on paye beaucoup, parfois pour des personnes qui résident en France, qui touchent des aides sociales en France, qui ne devraient pas, immigration, etc. Et puis pour de l'assistanat, pour des gens qui ne vont pas bosser. Je ne vois pas, mais encore une fois, on essaye quand on lit des... pour que ce soit très clair. Vu que beaucoup de personnes s'auto-identifient classe moyenne, vous ne pouvez pas demander à des classes moyennes objectives pour qui elle vote et pourquoi elle vote. Donc en fait, on regarde les statistiques, on regarde les enquêtes d'opinion, on essaye de regarder par niveau de vie, et puis les niveaux de vie, effectivement, comme vous le disiez, par localisation, par territoire. ce qui pourrait être la raison d'un ras-le-bol fiscal des personnes qu'on interroge. Il n'y a pas de science exacte, mais globalement, ce sentiment d'injustice fiscale dans les dernières enquêtes, nous en tout cas qu'on avait menées notamment avec Le Monde, Fracture Française suite aux dernières législatives, etc. C'était plutôt sur les classes plus populaires, voire les classes moyennes très inférieures, qui avaient un enjeu d'injustice fiscale au regard de la fiscalité des plus aisés. Sinon, ça allait quand même un peu plus sur le « je contribue beaucoup, mais les aides sociales ne me viennent pas ». Voilà. Donc, mais après, l'enjeu de la justice fiscale, elle est évidente, mais elle est plus à regarder au regard du reste à vivre, finalement, chez les classes moyennes, que qui paye véritablement l'impôt.
On le comprend, on arrive là un peu au cœur du sujet. Pierre Mattei, vous souhaitez réagir, parce qu'on aborde aussi cette question de « je paye beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup en retour ». C'est toute la question qu'on aborde depuis le début de cette émission, mais de savoir de si on en a pour son argent ou pas.
Avant peut-être de parler de la redistribution élargie, de savoir si on en a pour son argent, je pense que ce sentiment d'injustice fiscale a été aussi accentué par un certain nombre de mesures politiques qui ont pu être prises, notamment depuis 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu des mesures, beaucoup de mesures en faveur du pouvoir d'achat des classes moyennes. La taxe d'habitation, sur justement les travailleurs, pour que le travail paye, on a transféré une partie des cotisations sociales sur les retraités. Et ce transfert, il a été massif. À la fin de votre fiche de paie, aujourd'hui, vous avez encore, alors que c'était il y a longtemps, mais en gros, grâce au programme du président Emmanuel Macron de 2017, vous avez X% ou X euros de revenus nets en plus. Il y a eu les mesures d'impôt que je mentionnais tout à l'heure. Il y a eu tout ça, c'est vrai. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures pour le pouvoir d'achat. Mais parallèlement à ça, il y a eu aussi des mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages les plus riches. La fiscalité du capital, la fin de l'ISF, le fait de revenir sur une mesure de François Hollande qui voulait en gros taxer de la même façon le capital que le travail. François Hollande, quand il est arrivé, il a dit bah, justement pour favoriser la justice ou l'impression de justice fiscale, on va dire un euro de salaire c'est taxé de la même façon au titre de l'impôt sur le revenu que un euro de revenu du capital. Emmanuel Macron, pour des raisons politiques, a dit on va revenir là-dessus, on va faire la flat tax. Et donc il y a aujourd'hui un sentiment, mais qui est un sentiment vérifié, qui aujourd'hui les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail pour toute une partie des ménages. Donc ça favorise pas la valorisation du travail. On entendait Gabriel Attal tout à l'heure ou Amélie de Montchalin dire qu'il faut valoriser le travail. Ça a été fait par certaines mesures par le président Emmanuel Macron, mais il y a tout un tas d'autres mesures qui ont entretenu ce sentiment. La taxe d'habitation, au début, ne devait bénéficier que aux classes moyennes. En fait, c'est une mesure qui a été étendue aux 20% de ménages les plus riches, et le coût budgétaire pour cette extension de l'exonération de taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus riches, le coût budgétaire a été extrêmement important. Et donc, cette injustice, ce sentiment que les riches sont mieux traités que nous, en gros, et comme on a toujours quelqu'un de plus riche que nous, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas beaucoup au-dessus d'eux, mais les classes moyennes ont pas mal de gens qui sont plus riches qu'eux, ce sentiment d'injustice, il a été aussi entretenu par des mesures politiques. Puis après, il y a la question de est-ce qu'on en a pour son argent ? Bon, l'INSEE, là encore l'INSEE, a essayé de faire ce travail en élargissant le champ de la redistribution, en comptant pas juste, en gros, combien vous payez d'impôts et combien vous touchez de prestations sociales, parce que les impôts ne servent pas que, enfin, les impôts et les taxes ne servent pas que à financer la protection sociale en France, ça sert aussi à financer les investissements publics, les routes, les écoles, l'hôpital, les profs, bon, tout ça. Et donc, ce travail a été fait d'essayer d'inclure dans le champ de la redistribution tous ces services publics. Et en gros, l'INSEE montre que il y a une majorité de Français, presque 60%,
57%,
qui bénéficient de la redistribution élargie. C'est-à-dire que quand on prend en compte la valorisation des services publics, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de Français qui bénéficient de la redistribution, qui en ont pour leur argent. Après, le problème, c'est que dans cette redistribution élargie, on retrouve toutes les hétérogénéités qu'on mentionnait précédemment. C'est-à-dire que qui bénéficie de la redistribution élargie ? Ceux qui ont des enfants et qui les mettent à l'école, ceux qui sont malades et qui vont à l'hôpital, vieux, mais ceux qui sont vieux et qui touchent une pension de retraite. Et donc on en revient aux travailleurs qui potentiellement vit tout seul, paye un coût du logement élevé, qui n'est pas malade, il a de la chance. Mais
qui n'est pas malade pour l'instant, qui n'est pas vieux pour l'instant, il y a quand même cette logique assurantielle.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler aussi qu'on vit dans un système assurantiel où les cotisations qu'on paye, c'est potentiellement pour s'assurer plus tard. Vous n'avez pas de problème avec votre maison, vous payez quand même même votre accès, enfin votre assurance habitation, et vous vous dites pas, ah bah tous les mois je paye mon assurance habitation, et en fait j'en ai pas pour mon argent parce que l'assurance ne m'a pas fait de chèque. Donc il faut aussi refaire preuve un peu de pédagogie sur ce que doit être la redistribution élargie et le système assurantiel.
On va rebondir sur cette question de l'assurance, et notamment dans le cadre du réchauffement climatique, parce que c'est une question qui m'intéresse. Lisa Darbois, vous dites vous-même dans votre étude que les foyers des classes moyennes inférieures françaises, donc entre 75% et 100% de la médiane, sont bénéficiaires nets de l'imposition, cas que l'on retrouve uniquement en République tchèque, donc une relative exception. C'est vrai, on peut dire qu'une partie au moins de la classe moyenne bénéficie, en a pour son argent, pour reprendre cette expression.
Alors, je pense qu'il y a l'éléphant au milieu de la pièce, mais qui n'est pas l'objet de l'émission, mais dont on pourrait parler, c'est après la qualité des services publics.
On va y arriver.
De manière générale, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en avoir pour son argent ? Parce que je pense qu'il y a l'enjeu déjà de pédagogie, de savoir à quoi tout ça sert, ce financement. Puis après, il y a ensuite combien de temps j'attends quand je vais aux urgences, quelle est ma retraite après, etc., etc. Donc ça, c'est tout un autre sujet. Mais sur la redistribution élargie, ce qui est quand même assez intéressant, c'est vrai, la grande majorité des gens en ont du coup pour leur argent, c'est-à-dire qu'ils bénéficient davantage que ce qu'ils contribuent. C'est plus vrai quand même pour les plus modestes, hein, donc c'est 85%, c'est à peu près 50% pour les revenus médians, mais ce qui est intéressant, c'est votre écart ensuite de niveau de vie une fois que la redistribution élargie est faite. Quand vous êtes au niveau classe moyenne, niveau médian, vous gagnez en gros 4 fois moins que les classes les plus aisées, et vous gagnez 4 fois plus, c'est 4 virgules, etc., 4 fois plus que les ménages vraiment les plus pauvres, c'est-à-dire vraiment dans les moins de 20%. Une fois que cette redistribution élargie est prise en compte, c'est-à-dire effectivement les aides sociales, la redistribution, et puis la consommation, pas trop ce mot, mais la consommation de services publics qui est faite, vous gagnez 2 fois moins que les plus aisés, donc on voit que quand même le truc a un peu fonctionné, mais à peine 1,3 de plus que les plus modestes. Et c'est de là, à mon sens, que vient le sentiment de déclassement. C'est-à-dire, une fois que tout est fait, les plus modestes, je gagne à peine 1,3 fois plus qu'eux. Encore d'après, je gagne à peine 1,1 fois plus qu'eux. Et par contre, j'ai toujours au moins du double devant moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce tassement, et on n'est pas bénéficiaire. Enfin, je veux dire, voilà, le tassement, il est réellement au niveau de cette classe médiane, quand même. Et donc, c'est cet enjeu de déclassement qui après apparaît.
Et puis, il y a effectivement cet éléphant, comme vous le disiez, au milieu de la pièce, et celle de la qualité et puis de l'accès, tout simplement, aux services publics. Je vous propose d'écouter le témoignage de Patrick Bréman, responsable de Sud PTT Côte d'Armor, dans un grand reportage France Culture de Wafia Kechiche, Service public, la grande fracture des territoires, diffusé le 8 mars 2024.
La Poste a un projet de déplacement de facteurs. De Plouarette, ils veulent les emmener à Lannion, de Plestin à Morlaix et de Bélidentaire à Saint-Agathon. Donc, faut savoir que c'est des tout petits bureaux, on va dire historiques, des beaux bâtiments postaux financés par la mairie. Donc, les trois mairies ont fait beaucoup de travaux ces dernières années et ils ne comprennent pas pourquoi on enlève les facteurs. Parce qu'il faut savoir que si on enlève les facteurs, il y a un guichet par bureau. C'est des guichetiers. Et si les facteurs s'en vont, le guichetier risque de s'en aller aussi. On a vu ça partout. Et à la place, on met un facteur guichetier. C'est un facteur qui fait une petite tournée. Et après, il tient le guichet. Sauf que ce n'est pas les mêmes guichets. Il n'y a plus du tout les services bancaires de la Poste. On ne peut retirer que 300 euros. Et il faut venir 5 jours avant si on veut 300 euros et pas plus. Donc c'est une catastrophe. Il y a eu plein d'exemples. On a supprimé des bureaux de Trégastel sur la côte de Granit Rose, qui est très touristique. Un bureau, il y avait plein de monde, c'était supprimé. Les facteurs, c'est exactement le même souci. Les facteurs sont partis. Et un ou deux ans après, le facteur guichetier communal est supprimé. On met ça dans un petit commerce. Et les gens ne peuvent plus retirer d'argent du tout. Il n'y a plus de poste. Et quand il n'y a plus de poste, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'école après. Et la Poste fait de la pub partout. Le facteur va passer voir les gens, va aller voir les personnes âgées. Donc ça, c'est avant, il y allait voir les personnes âgées gratuitement. Maintenant, c'est payant. Si on a pas ordre de s'arrêter, faut pas s'arrêter. Faut pas boire le café. Faut pas. Bientôt, on pourra plus faire de calendrier. Je sais pas. C'est une bataille générale contre les services publics, la Poste, tout quoi.
Pierre Médec, cette histoire, on la connaît, hein, c'est celle de la dégradation et l'éloignement de services publics. Est-ce que c'est cela aussi qui contribue à cet sentiment de déclassement de la classe moyenne, ou en tout cas cette idée de devoir se débrouiller par ses propres moyens et de ne plus compter sur la puissance publique? Et si oui, quelle stratégie est mise en place? Est-ce que c'est effectivement se tourner vers le privé? On en parlait dans le cas de l'école, et donc cet abandon de la logique assurantielle qui est au fondement même de notre modèle social français?
On en revient au sentiment de pas en avoir pour son argent. C'est-à-dire, il y a deux façons d'en avoir pour son argent. C'est-à-dire que soit vous baissez votre contribution en disant, compte tenu du niveau de service public donné, moi, à plus de tel niveau de contribution, je considère que ça ne vaut pas le coup. Et donc, je veux en avoir pour mon argent. Donc, on réduit la contribution. C'est un peu l'optique qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, évidemment, il faut financer les baisses d'impôts. Il y a eu à peu près 30 milliards de baisses d'impôts sur les ménages depuis 8 ans. Elles ont été insuffisamment, selon la Cour des comptes, financées parce qu'on a eu une augmentation du déficit public, mais elles ont quand même été financées. Elles ont été financées comment ? En baissant la dépense publique. La dépense publique, c'est la poste, c'est l'hôpital, c'est l'école, c'est la police, c'est... c'est ça la dépense publique. Donc, si on réduit les impôts, il faut réduire la dépense publique. Si on réduit beaucoup les impôts, il faut réduire beaucoup la dépense publique. Bon, il y a ce phénomène-là. Et donc, à voir si, en fait, les Français seraient pas prêts à payer plus pour avoir plus de services publics, au final, et qu'ils auraient plus l'impression d'en avoir pour leur argent en contribuant un peu plus. Puis je parlais de métropolisation tout à l'heure avec la question du logement et de l'envolée des prix, mais il y a aussi, du fait de la métropolisation, une très forte concentration des services publics dans les grandes aires urbaines. Là où vont les gens, là où est l'emploi, là où on investit et on va rénover, ouvrir des hôpitaux, des écoles, mais du coup, à contrario, on va enfermer dans un certain nombre de territoires. Des bureaux de poste, pareil. Et donc, même à niveau d'imposition donné, évidemment, si on ferme votre bureau de poste, qu'on ferme l'école dans laquelle étaient vos enfants, qu'on ferme la ligne de chemin de fer qui desservait votre commune, vous payez toujours autant d'impôts. Peut-être que vous en payez un peu moins parce que vous avez bénéficié des mesures fiscales, mais il y a un moment, vous considérez que vous n'en avez plus pour votre argent, dans le sens où c'est même pas un aspect qualité du service, c'est juste l'existence même du service public qui a disparu. Mais pour maintenir les services publics dans ces territoires-là, assez loin des grands pôles urbains, ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, il y a un choix de société à faire sur est-ce qu'on continue dans la dynamique qu'on poursuit maintenant depuis pas mal de décennies ou est-ce qu'on essaye de réinvestir ces territoires. Mais ça se fera pas à budget constant.
Et puis réinvestir ces territoires, c'est aussi du très long terme, donc avec le risque que cela n'ait pas des effets immédiats non plus sur le sentiment de moindre déclassement, on va dire, de la classe moyenne. Ce qui pose une question fondamentale, Lisa Darbois, à partir du moment où on essaie de voir quelles solutions pourraient être mises sur la table, finalement, à quoi aspirent ces classes moyennes ? Est-ce que c'est effectivement des services publics de meilleure qualité et ils en ont conscience ? Est-ce que c'est un système d'aide où il y aurait moins de trous dans la raquette, en tout cas moins de trous par lesquels eux passent ? Ou est-ce que c'est tout simplement, et on a commencé à l'ébaucher, mais cette idée de pouvoir beaucoup mieux gagner sa vie grâce au travail, finalement, quel est l'axe qui est privilégié ?
Pour rester cohérente, c'est effectivement élargir les aides sociales, c'est pas ce qui est fondamentalement voulu, c'est pas ce qui est demandé. Et effectivement, il y avait pu avoir des incohérences à l'époque, notamment du gouvernement ou des gouvernements successifs. Les gens ont envie fondamentalement de vivre de leur travail. Après, on a plusieurs options devant nous. On a aussi l'état des finances publiques qui est le nôtre et qui est aussi un peu un guide. Là où je vous rejoins, c'est vrai, c'est que les dépenses publiques financent les services publics. On sait qu'on a beaucoup besoin, d'ailleurs, dans certains secteurs publics en particulier. Si on regarde aussi sur les moyennes de nos voisins, on sait que malheureusement, on n'est pas assez sur les sujets, par exemple, de justice. On sait que les citoyens, ils n'ont pas accès parfois partout à la justice. On sait qu'il y a des enjeux, notamment sur les affaires familiales, de plus en plus dans les territoires. Il y a des sujets, et là c'est intéressant, mais notamment sur le logement, où pour le coup, on dépense plus que nos voisins, mais alors pour une efficacité contestée ou contestable, parce que de fait, on a une crise qui n'est pas particulièrement bonne. Après, quand on parle de dépenses publiques, faut quand même pas oublier que 25% des dépenses publiques, c'est les retraites. Donc, on ne pourra pas se passer, à un moment donné, et on ne s'en passe pas parce qu'on en parle tout le temps, mais d'un réel débat sur la pérennité et le financement du modèle de retraite, parce que à la fin, c'est ça qui pèse sur les travailleurs vis-à-vis des impôts et des charges. Et puis, il y a la question des dépenses sociales, mais là, ça revient à votre question. C'est, on irrigue quand même beaucoup de prestations d'aide sociale de manière générale, des retraites. Tout ça pèse sur le financement de notre modèle social. Et on le sait bien, on a moins d'actifs par rapport à des retraités. On a effectivement des rémunérations qui parfois sont moindres. Donc, moi, je pense qu'il y a deux piliers, en fait, en réalité. Il y en a un qui est sur la fiscalité. Donc là, il faut effectivement que le travail paye davantage. Alors là, l'enjeu, il va être, est-ce qu'on fait simplement, on parle beaucoup en ce moment de TVA sociale, de faire payer davantage la consommation pour que les actifs aient des charges moindres et donc un revenu net un peu plus important. Il y a du pour, il y a du contre. Mais en tout cas, la question de qui paye, en vérité, le modèle social est intéressante. La question des retraités, la question de la CSG sur les retraites est aussi intéressante. Je veux dire, c'était une des promesses de campagne Emmanuel Macron pour des raisons, on le sait, assez évidentes, notamment électoraliste, mais pas que, on est revenu sur la question. Il y a pas mal de sujets à prendre en compte. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait pour les dépenses contraintes. Parce que ça, c'est vrai, le logement et l'énergie, ça a augmenté depuis 70 ans à un niveau énorme. Qu'est-ce qu'on fait sur le logement? Qu'est-ce qu'on fait ensuite sur l'école? Alors après, ça c'est un chiffre intéressant en termes d'inégalité territoriale, ça vient parler de la statistique de l'éducation nationale. Quand vous ne venez pas en tant qu'élève ou étudiant, quand vous ne provenez pas d'une des 12 plus grandes métropoles françaises, vous avez aujourd'hui moins d'1% de chances d'intégrer l'une des 50 plus grandes formations diplômantes de ce pays. C'est-à-dire et que on parle d'ascenseur social et de méritocratie, aujourd'hui il y a un enjeu aussi dans le territoire, c'est l'accès à l'orientation, l'accès à l'information, et puis ensuite c'est effectivement tous les enjeux dont on a parlé de mobilité et de logement. Donc il y a vraiment deux sujets. Bois,
je me permets de vous interrompre, laisser le dernier mot à Pierre Médec sur les solutions à mettre sur la table. On pourrait se dire que le choix a été fait quelque part, vous répondez à la retraite ou pas, les revenus du travail des classes modestes ont progressé davantage de 1,1% moyenne par an que ceux des classes populaires. On peut dire que le choix a déjà été fait de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur la table? Et vous avez une seconde pour me répondre.
Il faut peut-être aussi mettre sur la table la question des salaires. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des politiques de modération salariale en France depuis, alors pour des tas de raisons de compétitivité, de tout ça. L'État a soutenu, avec la prime d'activité notamment, avec les baisses de cotisations, a soutenu cette politique de modération, relative modération salariale pour les salariés des classes moyennes. Peut-être qu'il est temps aussi de remettre, pour que le travail paye, il faut un peu plus de salaire peut-être aussi, et donc mettre les organisations syndicales autour de la table pour réfléchir à d'autres politiques salariales dans notre pays.
Et d'où la question de l'indexation aussi à l'époque du pic de l'inflation entre autres. Un grand merci à tous les deux, Lisa Darbois et Pierre Médec, d'avoir tenté de faire le tour de cette question, ce qu'on n'a pas réussi à faire mais qu'on fera prochainement, c'est certain. Et à bientôt.